Il est 8h10 sur Radio Panique, vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube et je suis en compagnie de mes invités. Bonjour Romain, bonjour Boris.
Bonjour Zoé.
Bonjour.
Merci d'être venu. Romain, tu travailles au Grésea et Boris Frontedu, tu travailles au CPCP, c'est-à-dire le Centre Permanent
pour la citoyenneté et la participation.
Et donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour nous parler du dernier Grésea Eco. Le Grésea Eco, donc, qui est le trimestriel du Grésea, le groupe de recherche pour une stratégie économique alternative. Et ce numéro est consacré à la conciliation entre économie et écologie. Et donc, la revue est constituée de 5 articles et ils ont été coordonnés un peu. La revue a été coordonnée par toi, Romain, je pense.
Oui.
Et on essaye de voir dans la revue comment, alors que écologie et économie avaient une racine commune et pouvaient avoir des liens, comment leurs chemins se sont dramatiquement
séparés.
Et donc, au début, tu te poses la question, justement, dans un article, de voir un peu un retour sur... sur les différentes théories économiques qui ont jalonné l'histoire, et tu nous refais un peu un historique qui montre un peu les chemins et les bifurcations qui ont eu lieu. Comment ça s'est passé? Si on doit faire un retour historique, comment ça s'est passé?
C'est une très longue histoire qui remonte les premières théorie économique au milieu du 18e siècle, début du 19e siècle. Le premier courant économique qu'on recense, disons, où on parle vraiment d'économie, c'est les physiocrates, qui avaient déjà une réflexion sur l'environnement, puisqu'ils considéraient que l'agriculture, en fait, était la seule source de richesse. Il faut se replacer dans le contexte. On est dans des sociétés qui sont complètement agricoles. À peu près la totalité de la population travaille dans l'agriculture. Et donc, les premiers économistes s'intéressent au rendement agricole et se demandent si, avec l'augmentation de la population et parfois les baisses de rendement, on va pouvoir continuer à nourrir tout le monde. Donc ça, c'est les premiers économistes. Ensuite, un peu plus connu et un peu plus tard dans l'histoire au 19e siècle, c'est ce qu'on appelle les classiques. On est à la fin du siècle des Lumières et là on parle d'auteurs comme Adam Smith ou David Ricardo qui eux aussi vivent dans des sociétés qui sont hyper agricoles et qui vont aussi avoir une réflexion sur ces questions-là. Adam Smith par exemple et Ricardo s'intéressent aux ressources naturelles au travers de l'agriculture, plus pour savoir comment organiser le travail agricole de sorte à ce qu'on puisse avoir les meilleurs rendements. Ça, c'est plutôt Adam Smith. Et Ricardo, lui, va aussi s'intéresser à cette question, mais plutôt sous l'angle commercial. Donc, en se demandant comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir des marchandises qui sont produites ailleurs et échanger celles dont on dispose ici. À ce moment-là, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les économistes classiques, c'est un peu les pères de l'économie moderne, mais quand je parle d'économie moderne, je parle plutôt de l'économie dominante, libérale. On est plutôt dans une vision, déjà à cette époque-là, instrumentale de la nature, où la nature, on est là pour agir dessus, un peu comme Descartes le pensait. L'agriculture, les ressources naturelles sont des ressources qu'on doit exploiter un maximum. Il s'agit pas de concilier les intérêts humains avec la protection de l'environnement, où il n'y a pas vraiment de considération environnementale à ce moment-là.
Et du coup, est-ce que effectivement, on voit qu'il y avait que l'économie s'est développée parallèlement au développement à la révolution industrielle. Et donc, on a essayé de développer des théories sur ce qui se passait aussi concrètement. Et on ne peut pas dire que cette question, elle a été traité de la même manière. Et donc tu évoquais le fait qu'il y avait un courant économique dominant et qu'il était devenu dominant. Comment ce sont ces courants-là qui ont pris le dessus et donc qui ont mis en avant le fait que notamment dans l'article, tu cites Jean-Baptiste Say qui dit « Les ressources naturelles sont inépuisables car sans cela, nous ne les obtiendrons pas gratuitement. » Et il ajoute « Ne pouvant être multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. » Et donc, on voit que ça justifie le fait d'externaliser complètement ces questions-là et de ne pas en prendre, les prendre en considération du tout dans la façon d'envisager l'économie et le sujet de l'économie aussi.
Exactement. Et cette citation de Jean-Baptiste Say, elle va être, elle est toujours enseignée dans les cursus économiques, bien qu'on s'intéresse un peu plus aujourd'hui aux questions environnementales par nécessité, je dirais. Mais c'est une phrase qui va peser longtemps dans l'étude économique et les ressources naturelles. On va considérer que c'est quelque chose de complètement extérieur. Donc Jean-Baptiste Say, lui, fait toujours partie des classiques, donc plutôt première partie du 19e siècle. Et effectivement, au 19e, on va avoir la révolution industrielle qui va doucement s'avancer. Et à la fin du 19e siècle, on va avoir les descendants des classiques, si on peut dire, qui vont devenir dominants dans la théorie économique. Et ces néoclassiques, eux, ils vivent dans un monde qui est toujours ultra agricole, mais par contre, ils sont témoins de l'avancée de la révolution industrielle. Les industries sont de plus en plus capables de produire, la chimie arrive, les ressources sont de plus en plus abondantes, et on arrive en fait à un moment où on considère que les pénuries, le manque de ressources naturelles dues à des aléas climatiques, ce genre de choses, ça va peu à peu devenir du passé parce que le progrès technique va nous permettre de dépasser tout ça. Et donc les néoclassiques, c'est des gens comme Léon Valras, par exemple, ou Stanley Jevons en Angleterre. Et eux, en fait, ils vont juste complètement délaisser la question agricole et ils vont plutôt s'intéresser de manière complètement abstraite et mathématisée à la manière dont les marchés fonctionnent. Et donc, ces économistes classiques, ils s'intéressent surtout au comportement individuel, à comment réguler l'offre et la demande. Mais par contre, les ressources naturelles, c'est pas du tout l'objet de leur recherche. Et donc là, je le rappelle un peu, on est vraiment dans une croyance un peu aveugle dans l'industrie, le progrès technique, la croissance. Et donc l'environnement, les ressources naturelles, c'est vraiment pas du tout le centre d'intérêt de ces économistes.
Et c'est aussi la croyance que le marché va tout réguler de lui-même. Que c'est aussi le fait que la nature, l'environnement n'a pas à être traité particulièrement parce que le marché va tout résoudre.
Exactement. Léon Valras, on lui doit la théorie de l'équilibre général qui est toujours très enseignée dans les facultés d'économie. Et c'est une théorie qui explique grosso modo qu'en fait le marché doit s'autoréguler. Qu'il ne doit pas y avoir d'intervention extérieure, d'intervention de l'État parce que c'est nuisible et que de toute façon il faut laisser faire les choses et qu'on arrivera à un équilibre entre l'offre et la demande et un équilibre qui d'autant plus est optimal en plus. Donc ça c'est un autre économiste néoclassique qui s'appelle Pareto qui explique que en complément de Valras, en laissant l'économie suivre son cours, on arrive à l'équilibre et cet équilibre est optimal, c'est-à-dire que on ne peut pas améliorer la situation d'un agent économique sans détériorer celle d'un autre agent. Donc il y a rien à faire, laissons faire, laissez passer. Et c'est des théories. Donc là on parle du 19e siècle, mais en fait, c'est des théories qui ont toujours de fortes influences aujourd'hui. Et donc quand on regarde les politiques qui sont menées ces dernières décennies, depuis le tournant néolibéral, on est vraiment dans la même optique.
Et effectivement, il y a quand même toujours eu cette préoccupation de savoir comment gérer aussi les dégâts environnementaux qui étaient causés et de leur donner un prix. Et donc, il y a eu à la fois cette volonté d'un peu externaliser tout ce qui pouvait être environnement, mais quand même de pouvoir le quantifier, donner un coût et voir comment intégrer ça dans un système économique global. Et donc, c'est à la fois calculer les coûts des dégâts environnementaux qu'une entreprise pouvait provoquer, et tu évoques aussi la mise en économie de l'environnement, et donc la difficulté peut-être à dire quelle est la valeur d'un environnement sain quel est le coût d'un environnement pollué peut-être.
Ouais. Là du coup on avance un peu dans la théorie, et autour des années 1920, il y a un auteur qui s'appelle Pigou qui va ramener un nouveau concept économique, c'est celui des externalités, ou en français on dirait plutôt effet externe. Pigou, avec son maître à penser Alfred Marshall, vont se rendre compte qu'en fait il y a des effets externes qui sont soit positifs soit négatifs en économie. Donc des effets externes positifs pour Marshall, lui il parlait des districts économiques. Donc là il s'agit plutôt de mettre en valeur le fait que quand on a plusieurs entreprises qui sont côte à côte dans une même zone géographique, ça peut permettre des synergies. Et donc le fait que telle activité soit développée à côté d'une autre activité, ça permet de produire plus. Donc ça c'est le côté positif, et Pigou va aussi ramener le côté négatif, donc le fait qu'une activité économique puisse nuire à une autre activité économique. Donc un exemple tout bête, c'est au moment de la révolution industrielle, on a des usines qui commencent à bien polluer, à rejeter des substances un peu toxiques dans les rivières par exemple, et puis à côté de ça on a des agriculteurs qui se retrouvent avec une eau polluée et qui voient leur activité économique en pâtir. Ce que propose Pigou, c'est d'internaliser ces coûts externes et de leur donner un prix afin de rendre le marché moins défaillant. Donc l'interprétation que donnent les économistes de ces phénomènes, c'est que s'il y a de la pollution, s'il y a des effets externes, c'est parce que c'est une défaillance du marché, donc il faut intervenir sur le marché en fixant soit des taxes, soit des subventions. L'exemple célèbre de Pigou, c'est celui de l'apiculteur et du producteur de fruits, qui chacun bénéficie de l'activité de l'autre. Les abeilles viennent polliniser les arbres fruitiers, et les arbres fruitiers apportent de la nourriture pour les abeilles. Donc ce que propose Pigou, c'est que les deux producteurs se mettent d'accord et que l'un paye une subvention à l'autre pour le surplus d'activité qui lui est permis. Pour le côté positif, pour le côté négatif, pareil, ce que propose Pigou, c'est que l'usine qui pollue un peu trop paye des taxes à l'agriculteur, et donc les productions de l'usine finiront par être plus chères, et finalement l'usine sera incitée à moins polluer. Donc là on est encore dans la main invisible, on va apporter une petite taxe et le marché ne sera plus défaillant et va s'autoréguler. Et en fait ça c'est la naissance du principe du pollueur-payeur, un principe qui a toujours cours aujourd'hui, qui est une des pierres angulaires de la politique environnementale, et donc ça naît dans les années 1920. Et en 1960 on va avoir un autre auteur qui s'appelle Ronald Coase, qui est connu pour la théorie de l'agence, qui lui est encore un peu plus fanatique que Pigou, puisqu'il pense que l'État ne doit pas intervenir du tout et ni pour mettre des taxes, ni pour mettre des subventions. Et lui, ce qu'il propose, c'est de fusionner les activités pour éviter les négociations entre les deux parties qui vont être trop coûteuses et vont nuire à l'économie. Et donc, lui, ce qu'il va proposer, cause, c'est de mettre en place des droits de propriété qui vont être échangeables sur le marché. Et donc, avec Pigou, on avait le principe du pollueur-payeur, avec Cause, on a la naissance des droits de propriété échangeables qui vont donner, depuis une vingtaine d'années au niveau européen, ce qu'on appelle les marchés du carbone ou les marchés des droits à polluer, où les entreprises qui émettent un peu trop de CO2 peuvent acheter des permis à polluer à d'autres entreprises qui polluent un peu moins. Ce qui a permis, par exemple, à des boîtes de la sidérurgie comme ArcelorMittal de pouvoir produire toujours beaucoup, beaucoup en achetant des droits à polluer à d'autres entreprises.
Et l'erreur aussi, ça a été sans doute d'imaginer qu'en faisant payer, en mettant des taxes, ça allait arrêter les entreprises de polluer. Mais en fait, on se rend compte que beaucoup sont ravis de pouvoir continuer à polluer en allongeant un peu, en payant un peu de taxes. Mais ce que ça leur rapporte de continuer leur entreprise, leur production, est 10 fois plus grand que les taxes qu'on leur...
Mais... Il y a une chose, c'est que les prix du carbone au niveau européen sont restés super bas, que l'Union européenne a distribué gratuitement des crédits carbone jusqu'à il n'y a pas longtemps, et qu'en fait les entreprises n'ont pas eu de réelle incitation contraignante à modifier leurs pratiques. Un des paris qui était fait avec dans les théories de Pigou et avec ce principe du pollueur-payeur, c'était de dire en renchérissant le coût de la production des entreprises, ça va les inciter à utiliser des techniques et des technologies qui sont meilleures et qui permettront de réduire les pollutions. Et là encore, on est un peu dans une croyance aveugle dans le progrès technique. Et en fait, dans les faits, l'incitation n'est pas suffisamment grande pour les entreprises. Et il faut aussi dire que il existe certaines activités pour lesquelles on n'a pas d'alternative technique. Donc par exemple, aujourd'hui, si on prend une cimenterie, où je peux reprendre l'exemple de la sidérurgie, il n'existe pas 50 000 techniques pour obtenir du ciment. On a besoin de produire de la chaleur en grande quantité, ce qui demande des grandes quantités d'énergie. Et ça, c'est un peu une loi physique et on peut s'amuser à taxer tout ce qu'on veut. De toute façon, pour produire du ciment, on aura besoin de grandes quantités de chaleur. Donc là, on voit que les taxes, finalement, ne permettent pas du tout de résoudre le problème. Et donc ce raisonnement du marché où c'est toujours le prix qui va permettre de réguler les productions, on voit bien que dans les faits, ça fonctionne pas.
Et justement, cette question des systèmes d'échange de quotas d'émissions, c'est un des points qui est traité par Boris, je pense, dans ton article, et donc qui est encore, comme tu disais, Romain, la pierre angulaire de la politique environnementale de l'Union européenne. C'est au centre du Green Deal dont tu traites dans cet article. On passe un peu d'un à l'autre, mais ça me semble intéressant de montrer justement qu'est-ce qui fait que, alors que d'autres façons d'envisager les choses pour être mises en avant. Dans son Green Deal, l'Union européenne semble être restée, si on peut parler comme ça, dans une vision très... surtout ne pas contraindre le marché.
Tout d'abord, faut rappeler que le Green Deal, c'est une stratégie, donc de long terme. Elle fait suite à Europe 2020, et donc en fait, elle instaure un cadre général dans lequel va s'inscrire les politiques de l'Union européenne pour les prochaines années, voire les prochaines décennies. Et ce qui est fondamental dans le Green Deal et qui est explicité dès le départ dans ce document, c'est qu'il s'agit d'une stratégie de croissance. Donc l'objectif du Green Deal, c'est de créer de la croissance économique. Et puis après, la suite de la phrase, c'est tout en baissant les émissions de gaz à effet de serre, tout en découplant la croissance économique de l'utilisation des ressources naturelles, etc. Et donc voilà, le Green Deal va se décliner donc dans plein de secteurs, dans l'énergie, le transport, il y a des plans pour l'économie circulaire, il y a un plan pour l'agriculture, etc. Mais voilà, il faut savoir que l'objectif premier est donc de créer de la croissance économique, et cet objectif de croissance économique est est mis plus en avant que les objectifs environnementaux qui lui sont subordonnés. Voilà, donc ça c'est la première chose à dire avec le Green Deal. Et voilà, pour avoir assisté plusieurs fois à des débats ou des conférences, on interpellait directement le commissaire Timmermans, qui est en charge du Green Deal, ou même la présidente de la commission. Ils ont clairement dit à plusieurs reprises que cette considération n'était pas négociable, quoi.
Et justement, enfin, pour avancer, quand on analyse le Green Deal, on se rend compte que effectivement, il y a cette théorie de la croissance à tout prix. Elle mange tout le reste, on va dire, dans le sens où, sous prétexte de maintenir la croissance, on continue de financer toutes ces industries payeurs. Tu parlais du ciment, c'est une industrie super polluante aussi et qui contribue à détruire plein de ressources naturelles et à maintenir aussi des relations économiques inégalitaires entre consommateurs et producteurs, en tout cas de bitume. Et donc dans le pacte, dans le Green Deal, là cette dernière année, on voit que les États ont continué à subsidier, à financer les industries les plus polluantes, que ce soit l'automobile, que ce soit... Et aussi, ce qui est mis en avant, c'est le fait que sous prétexte de développement, de progrès, on valorise aussi tout ce qui est numérique. Et d'un côté, on dit qu'il faut favoriser la durabilité, l'environnement, et de l'autre, on favorise le numérique qui, vous l'évoquez chacun dans différents articles, est très gourmand en énergie et destructrice aussi de l'environnement.
Oui, donc depuis le Green Deal, il y a eu la pandémie de Covid-19, et donc qui a mené au plan de relance de l'Union européenne, qui donc au total va mobiliser 1 850 milliards, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui n'est pas vraiment énorme en fait, puisque là déjà les États eux-mêmes ont subsidié pour plus de 2 000 milliards. Leur secteur économique, dont, comme tu l'as dit, l'automobile et l'aviation qui en ont le plus profité. Et donc, en fait, oui, ce plan de relance, il est basé sur deux piliers. D'une part, la transition écologique, et d'autre part, la transition numérique. Comme tu l'as très bien dit, ça semble antagoniste. Et puis voilà, il y a beaucoup de recherches, d'études, etc., qui montrent en fait que numérisation et transition écologique semblent incompatibles, mais c'est une chose qui a complètement été ignorée par la Commission européenne et par les États membres. Et donc ici, les États membres vont devoir rendre leur plan de relance à la Commission européenne. Puis la Commission européenne va un peu juger si c'est en phase avec les objectifs du plan de relance. Si ça l'est, elle va lâcher l'argent, et donc ça a été réparti en fonction des États membres. Mais il faut savoir que apparemment, bon, tout ça est encore très opaque, donc ce qu'il y a, c'est parfois des fuites dans la presse, mais nous, on n'a pas accès à ces documents. C'est qu'en fait, il semble que la Commission européenne fasse pression sur les États membres pour qu'ils implémentent des réformes structurelles. Donc apparemment, ils auraient demandé à la France une réforme des retraites, donc de reculer l'âge de la retraite pour avoir accès au financement du plan de relance. Donc on voit que derrière, en fait, cette image de transition écologique, transition numérique, il y a ces bonnes vieilles recettes qu'on a implémentées en 2010, après la crise financière, qui reviennent comme un serpent de mer. Et donc voilà, il faudra attendre encore que les plans nationaux soient rendus publics. Mais ouais, j'ai l'impression que ce plan de relance va être couplé à un plan d'austérité, ce qui fait que c'est pas vraiment un plan de relance.
Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de contradiction à nous proposer d'un côté d'augmenter la croissance, mais tout en restreignant les dépenses. Ça a déjà été dit par la ministre du budget en Belgique que la crise du Covid, on va la payer encore pendant une dizaine d'années. Donc oui, il y a une espèce de contradiction là-dedans, de même qu'il y a une contradiction à prôner le développement technologique, la numérisation, tout en voulant respecter l'environnement. Il y a des rapports qui ont été publiés il y a quelques années, en France, pas mal, chez Shift Project notamment, qui explique que l'empreinte du numérique en termes énergétiques, c'est quelque chose comme 2 à 3% de la consommation d'énergie mondiale. Donc la fabrication de tous nos appareils numériques, donc l'extraction des métaux, la transformation dans les pays en Asie, plus la consommation de nos appareils, le fait de recharger nos téléphones, nos ordinateurs, ça représente 2 à 3% de la consommation énergétique. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que cette consommation est en croissance exponentielle. Donc la croissance, elle est de 8 à 9% par an. Ça veut dire que tous les 8 ou 9 ans, le numérique va doubler son empreinte énergétique, va doubler sa consommation énergétique. Et donc là, on est en plein dans le fantasme de la croissance verte qui nous dit un peu qu'on va pouvoir continuer à produire plus tout en protégeant mieux l'environnement, ce qui est une hérésie complète à mon avis.
Et l'exemple typique, c'est la question des voitures électriques qui ne remet pas du tout en question le fait d'avoir des voitures et qui dit une voiture électrique, c'est la solution à tous les problèmes.
Exactement, c'est ce que disait la ministre de l'écologie qui était à la RTBF il y a quelques semaines sur Matin Première, et qui expliquait que de toute façon dans une dizaine d'années il y aura plus que des voitures électriques et que le problème de la pollution il serait quand même bien atténué, tout en oubliant de mentionner que ces voitures électriques il va quand même falloir leur donner de l'électricité. On n'est pas complètement certain aujourd'hui du mix énergétique que la Belgique aura dans une dizaine d'années. On est en train de fermer les centrales nucléaires, avec pour projet de réouvrir des centrales à gaz qui vont avoir une durée de vie de 30 à 40 ans. Là encore, il y a une espèce de contradiction parce que on va probablement émettre plus de CO2 en ouvrant de nouvelles centrales à gaz. Le problème, c'est qu'on s'est engagé à réduire par deux nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc là encore, il y a un petit hiatus. Et toujours sur les voitures électriques, il faut pas oublier que ça consomme des quantités de métaux qui sont colossales. Et des métaux comme le cobalt ou le lithium qu'on trouve en RDC pour le cobalt. Le lithium, on le retrouve en Australie et pas mal en Amérique latine, et donc c'est des productions extractives auxquelles sont liés des dommages environnementaux pour l'air, l'eau, les sols. Oui, effectivement, les voitures électriques, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus vert.
Et comment on explique cet aveuglement, en fait? Et justement, est-ce que c'est de la mauvaise foi? Est-ce que c'est le fruit des lobbies aussi sur l'Union européenne qui fait que justement, les lobbies qui sont puissants, arrivent à faire passer les réformes qui vont dans leur sens, et notamment dans la question du pacte, il y a toute la question du choix des secteurs aussi qui peuvent être considérés comme durables et à valoriser. Et donc là-dedans aussi, on voit, enfin on l'a déjà évoqué un petit peu avec l'automobile, avec d'autres secteurs. Est-ce que c'est juste une question de bon gros lobby qui a le pouvoir, ou est-ce que ça tient aussi de ce qu'on évoquait en début d'émission, avec est-ce que c'est la théorie économique qui met de côté l'écologie a pris tellement de pouvoir qu'on ne voit même plus ces erreurs qu'on peut faire.
Oui, donc c'est sûr que les lobbies jouent un rôle clé. Donc, par exemple, il faut savoir que la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne est sponsorisée à chaque fois par des grandes marques. Donc la présidence roumaine était sponsorisée par Coca-Cola, la présidence portugaise par une entreprise qui est coupable d'accaparement des terres au Mozambique, je pense. Donc, et quand c'est la présidence allemande, alors c'est tous les majors de l'automobile allemand qui sponsorisent, comme ça le Conseil de l'Union européenne, ils payent pour les voitures qui vont chercher les chefs d'État, etc. Donc ça, c'est une chose. Maintenant aussi, il faut voir les équilibres politiques au niveau de l'Union européenne. Le plus grand parti, c'est le PPE, c'est la droite. La présidente de la Commission européenne, elle vient du CDU, le parti d'Angela Merkel. Ensuite, il y a les libéraux qui sont assez forts, etc. Dans les socialistes, la famille socialiste européenne, il y a les travaillistes hollandais, qui sont quand même autre chose que les socialistes peut-être belges ou dans d'autres pays. Et donc oui, les équilibres politiques font que remettre en cause quelque chose d'aussi fondamental que la croissance économique, c'est, je pense, c'est un horizon infranchissable pour eux. Et puis en plus, oui, c'est vrai que à chaque fois qu'il y a quelques petites avancées, les lobbies sont là pour essayer de les empêcher. Et on voit ici, par exemple, que pour la classification des activités vertes, qui est censée aider les fonds spéculatifs et les investisseurs, etc., à investir dans des secteurs plus verts, on voit qu'en fait, ils sont déjà en train d'intégrer le gaz dans cette classification. C'était pas du tout prévu, ça. Je sais pas d'où c'est venu, mais on peut imaginer, oui, que c'est d'une part certains pays qui dépendent fortement du gaz qui ont fait pression, mais aussi d'autre part l'industrie. Ouais.
Oui, mais je souscris tout à fait à ce qu'a dit Boris. Je pense qu'il y a un peu les deux, en fait. Les lobbies, effectivement, ont une influence sur la confection des politiques et leur mise en œuvre. Et de l'autre côté, je pense qu'on a aussi un personnel politique qui est issu souvent du même sérail et qui est pour partie complètement persuadé que ces théories économiques sont les meilleures, en fait. Quand on voit des gens comme Macron, je pense qu'ils y croient vraiment, en fait. Et après, c'est des gens aussi qui sont super forts en communication politique et tout ça. Donc, il y a tout un récit autour de ça sur « vous inquiétez pas ». On va mettre des politiques en œuvre, on a des solutions techniques, le consommateur n'aura pas à changer ses habitudes et tout va bien se passer. Donc c'est une manière de laisser un peu la machine tourner et voilà quoi.
Et effectivement, il y a, et tu l'as évoqué tout à l'heure, en disant que ces théories, c'était toujours celles qui étaient enseignées aussi actuellement dans les facultés d'économie. Donc, il n'y a pas vraiment une autre alternative. Et tu l'évoques aussi à un moment dans un des articles, le fait qu'il y avait clairement, dans les années 80, avec l'arrivée de Thatcher et Reagan, cette théorie du TINA, il n'y a pas d'autre alternative et il n'y a rien d'autre que cet horizon-là, et donc ça a contribué aussi évidemment à faire en sorte qu'on n'essaye même plus de trouver d'autres solutions ou de penser différemment, mais il y a quand même des gens qui pensent différemment.
Heureusement.
Voilà, et donc tu l'évoques effectivement dans un autre article de ce numéro, justement, c'est l'économie écologique ou d'autres tendances de l'économie qui pourtant pourraient apporter des solutions, entre guillemets, et pourraient orienter les politiques publiques différemment si on les écoutait un peu plus.
Exactement. Et donc ce courant de pensée qui est un peu plus récent, l'économie écologique, lui, il est plutôt né à la suite des années 60-70 et puis de quelques grands bouquins qui ont un peu marqué la cause environnementale. Je pourrais citer celui de Rachel Carson qui s'appelle Silent Spring, qui traitait des pesticides. Il y a Kenneth Boulding sur le vaisseau spatial Terre, qui faisait prendre conscience que finalement notre planète était finie et que les ressources qui s'y trouvaient étaient également finies. Il y a des auteurs comme Nicolas Rogan, Georgescu, qui lui a apporté une vision un peu plus physique et a été un des premiers à lier la thermodynamique et l'économie en mettant en avant la notion d'entropie, le fait que l'énergie, la matière se dissipe, qu'on le veuille ou non, c'est une loi physique, et que le fait de vouloir toujours avoir une croissance exponentielle à long terme, de toute façon, ça ne peut pas tenir pour des raisons complètement physiques. Et donc, effectivement, ce nouveau courant qu'on appelle l'économie écologique, s'est un peu construit en opposition à ce qu'on appelle l'économie de l'environnement. Donc, c'est un nom un peu trompeur, l'économie de l'environnement. En fait, l'économie de l'environnement, c'est les descendants des économistes néoclassiques du 19e siècle, dont on parlait au début de l'émission, qui se sont mis à traiter de l'environnement, mais pareil, toujours au travers du prisme du marché, en proposant de réguler l'activité par les prix. Et donc, les économistes écologiques, à ne pas confondre avec les économistes de l'environnement, eux, ils ont construit toute leur approche en opposition à ça. Et donc, une des particularités de l'économie écologique, c'est de vouloir se lancer dans une approche qui est transdisciplinaire. Là où l'économie classique considérait qu'elle se suffisait à elle-même quelque part, ne raisonnait qu'en silo, avec des agents économiques de l'offre et de la demande, les économistes écologiques, eux, ils ont commencé à faire des alliances en fait avec des biologistes et des physiciens qui leur ont dit les écosystèmes, c'est un peu plus complexe que des relations entre des producteurs et des consommateurs, et il va falloir aussi prendre en compte ces interactions. Et donc, là où il y a un progrès intellectuel, c'est déjà qu'on essaye de mettre côte à côte les interactions entre les écosystèmes naturels et les systèmes économiques et sociaux. Et donc, il y a plein de spécificités. Les économistes écologiques considèrent que l'économie, c'est pas juste un système avec des prix et des quantités, mais c'est avant tout un système avec des flux de matières premières et d'énergie. Il y a un des traits qu'on retrouve pas mal dans l'économie écologique, c'est aussi le rejet de la croissance pour elle-même. Ce qui veut pas dire que tous les économistes écologistes soient des décroissants. La décroissance, on peut dire que c'est un courant, une sous-branche de l'économie écologique. Mais il y a aussi des auteurs qui proposent une économie stationnaire, donc la croissance zéro. Donc il y a énormément de débats aussi dans ce courant-là. L'économie écologique aussi, elle a un de ses apports, c'est d'avoir mis en avant ce qu'on appelle les échanges écologiques inégaux. Donc c'est le fait que les pays du Sud, on en parlait avec la RDC par exemple, ont des économies qui sont quasi entièrement portées vers le secteur primaire, c'est-à-dire vers l'extraction des ressources naturelles, qu'elles soient minières ou agricoles. Donc ça, c'est déjà un problème économique, parce que la valeur ajoutée, elle est extraite des pays du Sud au travers des ressources naturelles, et ces ressources naturelles sont ensuite transformées ici, et donc la valeur ajoutée, elle est plus grande dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, par le simple fait qu'on soit plus haut dans les filières économiques. Mais cet état de fait et ces différences entre les pays du Nord et les pays du Sud, elles ont aussi une facette environnementale en fait. Et donc les pays du Sud qui donc ont peu de valeur ajoutée et extraient beaucoup de ressources naturelles sont aussi les pays qui subissent les plus gros dégâts environnementaux par les activités extractives. Et donc ça, c'est tout un tas de thématiques que l'économie écologique a mis en avant, donc en prenant à la fois en compte les aspects sociaux, économiques, la question des inégalités, de la justice environnementale, et en appuyant bien sur le fait que on vit dans des écosystèmes complexes et que nos relations économiques sont aussi des relations biologiques et physiques et des transferts de matière.
Et effectivement, c'est en lien aussi un peu avec un autre article qui est dans le livre qu'on ne va pas développer ici, mais auquel ça me fait penser, cette importance qui est ici donnée aux échanges écologiquement inégaux, à l'importance de prendre en compte le fait qu'on ait un système monde aussi, avec des inégalités entre les pays. Daniel Tanoureau, dans son article, il évoque aussi le fait que Marx avait peut-être laissé de côté justement la pluralité des acteurs qu'il n'a pas forcément pris en compte la question des inégalités entre hommes, femmes, entre nord et sud, entre différents. Et donc, est-ce que ça, c'est aussi un classique, on va dire, un biais classique de l'économie dominante, c'est de ne penser qu'en termes de l'homme blanc des pays du Nord et d'externaliser tout le reste?
Oui, je pense qu'il y a probablement de ça. De toute façon, c'est des théories qui sont nées dans l'Europe du 18e et du 19e siècle, l'Europe qui dominait un peu le monde à ce moment-là, l'Europe coloniale aussi. Donc c'est clair que ce type de réflexion transpire un peu de toutes ces théories qui sont nées au 19e siècle. Après, dans le cas de l'économie vue par Marx, il y a une espèce d'ambiguïté, en fait, où c'est ce qu'explique Daniel Tanoureau dans son article, c'est qu'il y a quand même pas mal de passages où Marx évoque les problèmes environnementaux. Dans la deuxième partie du 19e siècle, les dégâts de l'industrialisation étaient déjà flagrants, en fait. Il y avait les fleuves étaient pollués, il y avait d'énormes problèmes d'émissions de polluants à cause du charbon notamment. Donc ça, c'était des choses qui étaient connues par Marx. Et donc il y a une espèce d'ambiguïté où Marx, d'un côté, explique que finalement le capitalisme forme un tout dans son côté domination, en dominant à la fois le travailleur et l'environnement. Mais il y a aussi tout un tas de textes où on sent un peu chez Marx une espèce de fascination aussi pour le progrès technique quelque part. Et donc, la lecture qu'on peut avoir de ces textes est tout à fait différente, et c'est quelque chose qui ressort aujourd'hui encore dans les courants à gauche, où on a toujours une gauche, je sais pas, un peu à l'ancienne, si je puis dire, qui est toujours un peu productiviste, qui est dans la nostalgie de la production de masse et tout ça, et on a quand même une gauche toujours marxiste et qui est un peu plus alternative et qui se revendique de l'écosocialisme et qui là a fait le deuil du productivisme et de la croissance pour la croissance. Et donc ce à quoi appelle Daniel Tanoureau, c'est aussi pour les marxistes à relire et à réinterpréter Marx à la lumière des faits un peu plus récents et des connaissances qu'on a sur les dégâts environnementaux.
Effectivement, cette question, on le constate dans les mouvements sociaux, comme tu dis, et dans l'article de Brio Watley, qui fait un peu qui donne un aperçu de la galaxie des mouvements écologistes, qu'il y a toujours cette difficulté à gérer à la fois la défense d'un système économique pourvoyeur d'emplois, pourvoyeur d'une certaine croissance, et se dire, on peut pas continuer comme ça, mais quand même, comment fait-on? Et donc qu'il y a des courants aussi et des différences de point de vue, que ce soit au sein de la coalition climat, comme Brio Watley, entre certaines organisations environnementales, les syndicats, mais aussi au sein de l'écologie, de l'économie
écologique. Ouais.
Écologique, et tu mets aussi en avant le fait qu'ils ne sont pas tous d'accord, que ce n'est pas un courant d'un bloc, et peut-être que c'est ça la richesse aussi, que c'est le premier pas déjà de pouvoir montrer qu'il n'y a pas une seule façon d'envisager les choses, mais plusieurs.
Oui, c'est sûr, ça permet de jolis débats en perspective. Sachant quand même que les problèmes environnementaux sont assez urgents, donc il faudrait quand même qu'on arrive à se mettre d'accord sur un minimum de choses. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de fractures qu'on peut voir au sein de ce que Brieux a nommé la galaxie climat dans son article, et qu'on retrouve également dans l'économie écologique. Et c'est vrai qu'en fait, il y a il y a le rapport au productivisme, en fait, qui peut varier selon les organisations. Et c'est vrai qu'il y a une gauche productiviste, c'est vrai qu'il y a une gauche qui est aussi pour la croissance verte. Il y a une gauche qui prône le progrès technologique comme solution pour régler nos problèmes. Et il y a aussi une gauche qui n'a pas franchi le pas de la critique du capitalisme, en fait. Et ça, c'est également un clivage qu'on retrouve dans l'économie écologique, où on a une partie des auteurs qui pensent que il faut pas complètement abandonner les solutions par le marché parce qu'elles peuvent être utiles, et une autre partie qui considère que on ne pourra de toute façon rien faire avec la logique de l'accumulation infinie et qu'on doit trouver des autres modes de production et d'organisation de nos sociétés. Et c'est vrai qu'on n'en a toujours pas fini avec ces clivages. Ce qui va créer effectivement encore pas mal de débats.
Oui, parce que comme tu le disais, il y a une urgence et on n'a peut-être plus le temps de refaire indéfiniment les mêmes débats qui ont peut-être eu lieu déjà depuis des années et des années. Je vois que le temps a filé et donc je ne sais pas si vous voulez, Boris ou Romain, mettre en avant l'un ou l'autre élément qui aurait été oublié dans cette discussion. En tout cas, j'invite les auditeurs et auditrices à se procurer ce Grésea Echo.
J'invite également les auditeurs et les auditrices à se procurer le Grésea Echo. C'est vrai que le temps a filé et qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans ce numéro, donc j'invite vraiment tout le monde à se le procurer.
Et donc on peut le faire en contactant le Grésea, le site c'est grésea.be, c'est ça, hein?
C'est ça, grésea.be, vous pouvez nous envoyer un petit mail, et sinon c'est également en vente dans toute une série de librairies à Bruxelles et quelques-unes en Wallonie que vous pouvez retrouver quelque part sur notre site internet.
Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Boris, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ?
Merci de m'avoir invité. C'est vrai que c'est rare d'avoir autant de temps pour parler comme ça de sujets qui sont pas suffisamment abordés à mon avis. Donc c'était chouette, merci.
Merci à tous les deux. Merci. Et n'hésitez pas à Grésea Echo sur grésea.be. No te leves tan real tú, no te leves tan real tu prenda de tanto valor, prenda de tanto valor, que el árbol que más se eleva le tumba el viento la flor. A mí me llaman el negro, a mí me llaman el negro, si yo no niego mi color. Yo no niego mi color, porque es negro el cigarro y pica el árbol en flor. Anoche dormí en la arena, pero en un colchón de lana, y esta noche no duermo porque no me da la gana.